85 années, c'est un ensemble romanesque extrêmement puissant à cause des hommes avec qui elle a été mariée plusieurs fois dans plusieurs pays, et tout ce qu'elle a suivi, naturellement des enfants, et sur un fond historique que vous devinez, puisque quand elle est née, son père avait déjà le pouvoir suprême en URSS, et elle est donc sans doute la petite fille la plus claquée de l'URSS.
Oui, c'est une princesse. C'est vraiment une princesse.
Un sort tout à fait étrange lié à ce que vous appelez, dans le titre du livre, la malédiction de Svetlana. Bon, eh bien, Beata de Rodien, je vous remercie au nom de vos lecteurs, futurs lecteurs, d'avoir fait cet énorme travail. J'aurai l'occasion de dire dans notre conversation quelques échos de mon sentiment de lecteur. Beata de Rodien a écrit jusqu'à maintenant deux romans et deux biographies. Vous êtes donc un écrivain à part entière, un écrivain de langue française.
Je suis née en Pologne, donc la langue française, c'est la langue que j'ai apprise.
Mais il se trouve, par exemple, que des livres que vous avez publiés en Pologne ont été traduits à partir du français. Donc vous êtes un écrivain français à part entière. Je ne sais pas par où commencer, parce que, comme je vous l'ai dit, le roman est extrêmement riche avec les personnages, le cadre, et tout cela. Dites-moi votre sentiment concernant cette Svetlana. Sa malédiction est-elle seulement d'être la fille de Staline ?
Mais qu'est-ce qui pourrait être pire dans la vie que d'être la fille de Barbe Bleue ? Déjà sur cette photo que vous voyez, que nous avons choisie avec mon éditeur, vous voyez une petite fille qui a 7-8 ans, que son père la tient sous les coudes, la garde avec tendresse. Elle a un peu mal, on voit, parce qu'elle tourne le visage, elle sourit, un sourire très doux, elle a mal. Juste un peu, pas trop. Est-ce qu'on peut lui venir en aide? Pas vraiment. Elle est née comme une princesse au Kremlin en 1926. Elle est la chose de Staline. Il a deux autres enfants, mais c'est elle qui préfère. Et dès le début, il aimait beaucoup, si Staline pouvait aimer quelqu'un, il prétendait aimer sa femme, Nadia. Qui va se suicider quand l'enfant va avoir 6 ans. Donc elle est orpheline et très gâtée par son père. La mère était un peu distante, mais elle a gardé cette nostalgie de la mère, là, comme tous les enfants du monde. Elle a une éducation très particulière, parce que quand je dis que c'est une princesse, c'est pas seulement parce qu'elle est très gâtée, mais elle a une éducation comme ils avaient des princes autrefois. Elle a une gouvernante, elle a des professeurs de français, d'anglais, d'allemand, elle a des nounous, des cuisiniers, il y a un garde du corps qui porte son cartable, qui est assis dans le fond de la classe, elle est toujours la première en tout, elle a une bonne mémoire, elle s'applique, tout ça vous plaît à papa. Mais son père lui dit, quand elle demande quelque chose, il lui dit, mais pourquoi demander? Ordonne, et on va l'obéir. Vous pouvez imaginer clairement, une telle éducation va avoir une influence pour plus tard dans sa vie d'adulte. Elle a ses deux frères, donc un demi-frère, Yakov, donc les premiers, l'aîné des enfants Staline, qui est l'enfant né de Katerina Svanidze, la première femme de morte quand le garçon avait quelques mois. Elle était en Géorgie, et ça n'aime même pas. Peut-être parce qu'il lui ressemble, peut-être parce qu'il n'est pas assez dur. Et cet enfant-là, c'est cet frère qui sera prisonnier dans les premières années de guerre. Et si vous vous souvenez dans l'histoire, qui devait échanger contre Van Paulus et que Staline a refusé. Le deuxième frère, c'est Vassili, avec lequel elle ne sera jamais vraiment liée. Vassili est difficile, il avait 12 ans, presque 13 ans, quand sa mère s'est suicidée, et il comprenait beaucoup plus que la petite fille qui n'avait pas encore 7 ans. Et il a considéré ce geste de sa mère comme un abandon. En fait, ce suicide de Nadia Alenieva était parce qu'elle a compris que la situation était sans issue, que jamais Staline l'autoriserait de divorcer. Elle s'est inscrite à l'Académie industrielle. Elle voulait être une femme éduquée. Staline n'aimait pas du tout. Staline voulait une femme chez lui et qui s'occuperait des foyers. Alors, voyons ce type de foyers quand ils en avaient. Moi, ça servirait toute cette armada de domestiques. Mais c'était surtout pour l'avoir sous les coudes et qu'elle soit dépendante d'elle. Alors qu'elle partait toute seule de Kremlin, à pied souvent, parce qu'elle refusait la limousine de son mari. Et elle voyait la situation qui régnait dans le pays. Elle voyait ce qui se passait. En plus, à l'université, personne ne savait qui était-elle, donc les étudiants partaient très librement avec elle. Et ils m'ont dit qu'à quelques centaines de kilomètres de Moscou, il y a des gens qui meurent de faim. Alors elle a dit à son mari, pourquoi tu fais ça? Alors, la réaction de Staline, vous pouvez imaginer, Staline n'a jamais supporté aucune critique dans sa vie. Donc, il a fermé tout simplement l'Académie industrielle. Et ceux qui étaient en contact avec l'Ukraine, qui ont été en voyage ou qui ont eu des stages en Ukraine, ils ont été envoyés au Goulag. Et c'est Goulag, par contre. Il y avait si peu de personnes qui savaient ce que c'était. Personne ne venait. Personne ne pouvait parler de Goulag. Même encore nos intellectuels qui ne savaient pas ce que c'était. Même Gorky qui est venu et qui a l'Italie parce que Staline lui a proposé des conditions extraordinaires dans la vie en Union soviétique, puisqu'il avait besoin pour sa propagande, il a encensé cette aberration. Et moi, je me tiens à la mémoire de mon grand-père, c'est vivant parce que mon grand-père a passé 12 ans au Goulag. Il était professeur de l'université à Lvov, qui était une ville polonaise en 1939 encore, et que les soviétiques ont annexé et envoyé 1 million de Polonais en Sibérie. J'étais trop jeune pour poser des questions quand il est venu, mais c'est un des regrets qu'on a souvent vis-à-vis de nos grands-parents, qu'on ne savait pas dialoguer, et ça nous vient beaucoup plus tard. Son retour, je parle de son retour dans mon livre précédent, dans la fugue polonaise, qui est aussi un roman, mais où tout est presque.
Mais moi qui n'ai pas lu le livre dont vous parlez, j'ai trouvé quand même un écho de la déportation de votre grand-père dans les portraits que vous faites de Anna et Génia, oui, les deux tantes de Svetlana,
parce que maintenant, imaginez les fêtes chez Staline. Staline est très hospitalier. Donc, il y a des fêtes qui sont chaque soir, il y a des gens qui viennent, ils passent une soirée, parfois ils restent le lendemain. Et puis le lendemain, il n'y a personne. Et Svetlana, la petite fille, elle pose la question, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, ma tante? Qu'est-ce qui est devenu mon oncle? Pourquoi mon cousin n'est plus là? Et Staline lui répond, elle parle trop. Donc la petite fille, elle pense que parler, c'est un vilain défaut. Mais elle se pose quand même des questions aussi quand à l'école, il y a des petites filles qui lui disent « ma maman a été arrêtée, mon père a été arrêté », qu'il y avait des messieurs en manteau de cuir et qui sont venus frapper à la porte en pleine nuit, qui ont dit à mon père « tu as un quart d'heure pour préparer tes affaires, prendre des affaires chaudes et l'emmener ». Donc, Svetlana, dans sa naïveté, elle dit à son père « oh, je ne veux pas que ça t'arrive à toi ». Et est-ce que tu pourrais demander à tonton Laventi, on sait en Beria, de libérer, parce que certainement un Caboudet a fait une erreur. Staline écoute sa moustache avec un petit sourire, mais quand elle insiste, il lui dit « mais un Caboudet ne commet jamais d'erreur ». D'ailleurs, Staline aussi ne croyait pas en innocence. Autant Tolstoï disait « il n'y a pas de gens coupables », Staline disait « il n'y a pas de gens innocents ». L'innocence n'existait pas. Bah, vu de ce côté-là, on pouvait toujours trouver. Et quand il y avait des tortures abominables, évidemment, sous la torture, même une vache va avouer qu'elle a un cheval. Alors, il y avait toute cette terreur. Donc, elle est peut-être la seule personne dans toute l'Union soviétique, dans ce pays aussi malheureux, qui ne craint rien. Vassili, à la rigueur, un gifle s'il sent la vodka ou la cigarette, mais elle ne craint rien. Elle est préférée, la préférée de son père. C'est seulement la fossée commence à grandir quand, à l'adolescence, quand elle tombe amoureuse. Déjà d'être amoureux quand on est la fille d'un tyran, c'est déjà un malheur. Mais pour l'amoureux en question, c'est une tragédie. Mais comment ça s'est passé? Elle a une rencontre à une fête à Zoumalovo, où ils habitent, où c'est la Dacha. Elle a rencontré un cinéaste qui a 40 ans, Alexis Kapler. Il est très célèbre. Il drague cette petite fille qui est toute triste, c'est parce qu'elle a découvert récemment que sa mère n'est pas morte de la l'appendicite, comme on a fait croire, mais elle est morte et qu'elle s'est suicidée. Elle a trouvé ça dans un journal anglais. Donc elle est absolument furieuse, elle interroge sa nounou, elle interroge sa grand-mère. On lui dit, mais tu étais si petite, tu n'aurais pas compris. Elle veut aussi s'interroger avec son père. Elle est très triste, elle rencontre cet homme. Bon, il est marié, c'est un homme affable, c'est un homme célèbre. Aucun père ne serait content de voir sa fille de 16 ans, une lycéenne, qui sort avec un homme de 40 ans, même s'il ne s'appelle pas Staline. Mais la réaction de Staline va être odieuse, parce que même si Kapler est un prix de Lénine, prix de Staline, qui est un bon communiste, qui croit en bon père de nation Staline, il est juif. Et Staline est profondément antisémite. Il traîne Svetlana vers le miroir et dit « Regarde, toi, dans la glace, qui veut de toi ? C'est moi qui veux approcher, c'est moi qui veux... influencer, pas toi, c'est pas, il t'aime pas. » Et ça va être tellement bouleversant pour Svetlana. Elle va jamais se remettre de cette. Aucune femme ne peut se remettre d'une chose pareille. Et en plus, il envoie Kapler pour 5 ans au Goulag comme espion britannique. 5 ans renouvelable. Parce que quand, au bout de 5 ans, Kapler va revenir à Moscou, qui est une ville interdite pour les Zèques. Il va être arrêté dans les trains et on va envoyer immédiatement pour 5 ans dans un autre camp en Sibérie, beaucoup, beaucoup plus dur. Staline a considéré les périmètres de Moscou comme une ceinture de chasteté pour sa vie. Mais entre-temps, Svetlana cherche une échappatoire. Elle cherche comment s'en sortir. Elle ne veut plus habiter toute seule en famille à son père. Elle ne les voit presque plus. Il est occupé du matin au soir, c'est la guerre. Il a terriblement vieilli. Il travaille la nuit, il dort le jour. Et elle veut s'échapper et elle, Elle sort avec un garçon qui a été aussi un ami de son frère, qui a 4 ou 5 ans plus qu'elle, et qui était le chef scout, c'est-à-dire chef pionnier, quand elle débutait dans les mouvements.
Il y avait un certain prestige.
Il y avait un certain prestige dans ses yeux. Une fois de plus, c'est un bon communiste, mais il est juif. Et Staline a décidé qu'il n'a jamais verra cet homme. Et donc, ils ne se sont jamais rencontrés. Néanmoins, quand elle est enceinte, il lui accorde un appartement dans cette...
La maison des quais.
C'est une ville dans une ville. À Moscou, c'est encore aujourd'hui, c'est un des immeubles les plus prestigieux qui existent. C'est-à-dire, imaginez l'eau chaude partout, les gaz, l'eau chaude... Tout appartient à l'État et qui vous appartient, vous pouvez l'utiliser. Il y a un traiteur, on vous apporte
24
ascenseurs. Tout est meublé, les assiettes, les cristaux, la bibliothèque au rez-de-chaussée, un cinéma, un coiffeur. Parce que les Soviétiques,
les grands de
Moscou, oui. Et ils n'ont pas à se mêler aux autres. Donc ils peuvent vivre dans ces huis clos. Alors elle va habiter là et elle est un peu, une fois de plus, déconnectée de la réalité. Mais ce mari qui ne plaît pas à papa, il est terriblement ennuyeux. Elle n'aime pas. Donc les deuxièmes maris. Ah oui, peut-être que je raconte comment ça se passe les divorces chez Staline. Un jour, Grigori, elle vient à la maison les soirs et il y a deux écologistes qui la prennent par les bras et disent « Mais vous n'avez pas plus droit de rentrer par ici. » Attendez, j'habite ici, plus maintenant. Et c'est plié. C'est comme ça qu'il se passait. Et d'ailleurs, les divorces en Union soviétique était très très facile, encore plus facile que le mariage. Le mariage, on allait juste signer un registre, ça durait 3 minutes. Les divorces, ça pouvait même plus court, puisqu'on pouvait les faire par la carte postale. On envoyait une carte postale, je mets fin à la vie avec un tel, et puis c'est fini. Et pour vous dire que l'Union soviétique a aboli les normes morales en très 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 peu de temps. Et il n'y avait plus du tout... évidemment, l'avortement, c'était pareil. C'est devenu pratiquement comme une contraception. Elle raconte comment elle a avorté à plusieurs reprises sans même annoncer et consulter son mari. Alors, le deuxième mari, c'était pour plaire à papa. Ça va être le fils de redoutable Ždanov. Ždanov, c'est lui le bourreau de la culture. C'est lui qui disait aux compositeurs comment écrire la musique, aux écrivains comment écrire, aux peintres comment peindre. Elle va être cet homme qui a eu un petit peu de pouce de bon papa Staline, qui trouvait que ça serait un genre idéal. Parce que, en fait,
et puis c'est le fils d'André Janot.
André Janot, donc, elle est. Alors, aussi, Svetlana, elle est amoureuse secrètement des fils de Beria, des Sergo Beria, il faut dire qu'il est très très beau, avec sa moustache en accent surcomplexe, un beau géorgien, mais il a choisi une autre femme, la meilleure amie de Svetlana, c'est-à-dire la petite fille de Gorky. Et Svetlana ne serait jamais venue de cette abandon, puisque de cette trahison, tout à coup, elle a perdu deux êtres qu'elle aimait, Sergo et Marta Pechkova, la petite fille de l'homme. Les troisièmes maris, donc ça, je ne comprends pas même qu'il y avait tous les maris, mais tous les amants, mais il y en a un qui l'a particulièrement marqué. Dans certains écrits, j'ai trouvé que c'était les maris. En fait, ils ne se sont jamais mariés. C'était un communiste indien qui est venu se soigner à Moscou parce que les communistes du monde entier considéraient que la médecine soviétique était très réputée. D'ailleurs, on connaît tout au reste, c'est allé même mourir en Crimée, tellement ils avaient confiance en médecins soviétiques. Et là, c'était déjà après la mort de papa, on lui refuse le mariage. C'est déjà l'époque, après Khrushchev, c'est l'époque de Kosygin et Brejnev. Et même si la loi que les soviétiques n'avaient pas le droit d'épouser des étrangers était déjà abolie après la mort de Staline, et la troïka de Politburo a dit niet. Et c'est seulement avec ses sangs, quand il est mort dans ses bras, avec ses sangs, qu'elle pourra partir en Inde. On lui donne un visa pour une semaine.